pour le sermon aujourd'hui, je voudrais commencer avec un mot qui nous n'aimons pas trop. Ce mot, c'est impossible. Impossible est un mot que nous n'aimons pas trop. Si quelqu'un d'aujourd'hui dit non, il est impossible de faire ceci ou cela, souvent cela incite quelqu'un d'autre à prouver que la personne a tort. On se dit ce n'est pas vraiment impossible, c'est juste que cela prend un peu plus de temps. Cette technologie avec Zoom, il y a 10 ans, c'était impossible peut-être dans cette configuration. Le frère Wright, il y a 100 ans, ont prouvé que le vol aérien contrôlé et motorisé était possible. On pensait qu'il était impossible d'aller sur la Lune. Et qui aurait pu imaginer l'incroyable technologie qui était considérée comme impossible il y a 100 ans. Jésus a dit dans Matthieu 19, « Avec Dieu, tout est possible. » Et dans Luc 1, l'ange qui annonce à Marie la naissance de Jésus lui dit que rien n'est impossible à Dieu. En tant que peuple de Dieu, nous avons l'espoir et nous attendons de Dieu qu'il fasse des choses qui ne seraient pas possibles autrement. Mais la Bible nous dit quand même, pourtant, qu'il existe en effet quelque chose d'impossible. Donc, reportez-vous s'il vous plaît à Hébreux 6, verset 4. Hébreux 6, verset 4. Et lisons comment Dieu utilise le mot « impossible ». Hébreux 6, chapitre 6 et verset 4. Parce que ce mot « impossible » existe dans ce sens dans la Bible et même dans plusieurs traductions. Hébreux 6 et verset 4, il dit « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, et verset 5, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances de siècles à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés, amené à la repentance, puisqu'il crucifie pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. » Ce passage a été le sujet de nombreux débats depuis longtemps et certains commentaires énumèrent plusieurs interprétations de ce passage. La question qui se pose au sein du christianisme traditionnel est de savoir si Dieu permettrait vraiment la mort éternelle d'un croyant qui a rejeté son appel. Nous savons qu'en tant que chrétiens, nous avons des hauts et des bas dans notre marche chrétienne. Si quelqu'un quitte l'Église, adopte les attitudes de ce monde, fait des choses contraires à la parole de Dieu et peut-être est tué dans un accident de voiture pendant l'une de ces périodes, est-ce que Hébreux 6, verset 4 s'applique à cette personne? Ou bien Dieu ne serait-il pas miséricordieux? Et pourtant, même ceux qui proposent d'autres interprétations de ce que dit une simple lecture de versets reconnaissant qu'il existe dans ce passage une possibilité de condamnation. Si quelqu'un met la main à la charrue et fait ensuite demi-tour, il pourrait être condamné sans possibilité de rédemption. Dans l'Église de Dieu, nous comprenons que ce passage parle de ceux qui seront dans la résurrection finale, lorsque la mort et les séjours des morts seront jetés dans les tanks de feu. Il s'agit de la résurrection de ceux qui ont commis le péché impardonnable. Il ne nous appartient donc pas de juger si quelqu'un a vraiment eu part au Saint-Esprit, comme il dit goûter ici, comme le dit Paul. Seul Dieu connaît suffisamment le cœur des gens pour le savoir. Mais ce passage est là pour nous faire réaliser le sérieux de notre appel, car il existe un point de non-retour, un point où il nous est impossible, voilà ce mot, impossible de revenir à Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais discuter de ce passage et plus particulièrement de ce qui pourrait faire en sorte qu'un croyant soit exposé à ce terrible destin. Nous examinerons le contexte de ce passage de Hébreux 6. On va passer pas mal de temps dans ce chapitre et discuterons de la différence théologique entre le lait spirituel et la viande ou la nourriture solide, il dit dans ce passage spirituel. Deuxièmement, nous verrons ensuite comment l'incapacité de progresser au-delà du lait spirituel peut conduire au sort décrit dans Hébreux 6. Et enfin, troisièmement, nous verrons comment ces principes s'appliquent à nous. Donc, ça, c'est les trois points dans ce message. Alors que nous venons de célébrer le don de Saint-Esprit que nous avons reçu il y a quelques semaines, tel qu'elle est illustrée par le jour de la Pentecôte, j'espère que chacun d'entre nous pourra retirer de ce sermon un examen approfondi de l'incroyable responsabilité qui nous encombre d'être continuellement conduits par l'Esprit de Dieu et de ne pas rejeter ce qui nous a été donné. Souvent, nous nous concentrons sur la connaissance de la doctrine et de la vérité. Bien sûr, ça c'est très important, mais je pense que nous verrons que la question plus profonde à aborder ici est celle de discernement. Discernement. Nous allons parler beaucoup dans ce sermon sur le sujet de discernement. Et la question que nous devrions nous poser est de savoir si nous risquons de subir le sort décrit dans Hébreux 6. Donc, commençons par notre premier point. Le premier point, c'est commençons par regarder le contexte de ce passage, parce que nous avons lu quelques versets ici, mais quel est le contexte de ce passage? Quel est le sujet vraiment de l'auteur de passage? Donc, revenons quelques versets en arrière à Hébreux 5 et verset 12 pour rattraper le contexte. On va lire aussi verset 11, mais commencez pour l'instant avec verset 12. Hébreux 5 et verset 12. Il dit, « Vous, en effet, qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous avez encore besoin que qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. » Donc, ce sujet a été abordé à plusieurs reprises, mais je pense qu'il est important de répéter et de préciser ce que représente le lait par rapport à la nourriture solide. Si nous regardons de près ce verset, nous voyons qu'il est une référence au fait d'apprendre, il dit les principes élémentaires des oracles de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, les principes élémentaires des oracles de Dieu? Dans ma marge, à côté du mot oracle, il y a une note qui dit parole, parole. Et ensuite, une note plus longue qui dit les paroles de Dieu sont les Écritures. Les Écritures de l'Ancien Testament, certainement. Mais aussi, probablement, les écrits qui sont devenus, les lettres qui sont devenues plus tard le Nouveau Testament. Les principes élémentaires peuvent également être compris comme étant la base ou l'ABC. Même l'une des versions anglaises de la Bible, qui s'appelle J.B. Phillips, commence le contexte au verset 11 en disant ceci, et je vais traduire le verset de cette version en anglais. Vous pouvez regarder verset 11 dans le Louis II, dans l'autre version que vous avez. Mais je vais lire dans cette version. Il dit, il y a beaucoup de choses que nous aimerions dire au sujet de ce grand sacerdoce. Mais il n'est pas facile de vous les expliquer puisque vous semblez si long à saisir la vérité spirituelle, alors que vous devrez maintenant être capable d'enseigner aux autres, vous avez même besoin d'enseigner pour vous répéter l'ABC de la révélation de Dieu aux hommes. Vous êtes devenus des gens qui ont besoin de lait et ne peuvent pas recevoir la nourriture solide. Voilà, donc dans cette version, il utilise le terme l'ABC. La nécessité d'être à nouveau enseigné, sans doute parce que nous avons oublié ces principes bibliques élémentaires, est comparée à du lait. Le lait n'est pas mauvais. Bien sûr, c'est pas mauvais. Au début de notre vie, le lait est notre nourriture. Le lait est bon. Tout comme les principes élémentaires de Dieu sont bons. Il n'y a rien de mal avec ça. La question soulevée n'est donc pas de savoir si le lait est mauvais ou si les principes élémentaires sont mauvais, mais plutôt qu'il nous est possible de les oublier. Ça, c'est le point. Et lié à cela, qu'il nous est possible de devenir paresseux. Paresseux. Un autre terme pour paresseux est oisif. Au verset 11, la version Louis II commence ce passage en disant, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenu lent. Vous êtes devenu lent à comprendre. Ce terme lent à comprendre est rendu dans l'une des versions anglaises par devenu sourd pour décrire quelqu'un qui ne fait pas attention, quelqu'un qui n'est pas l'esprit sur qui il fait. Avez-vous déjà essayé de dire quelque chose d'important à quelqu'un et vous avez la nette impression que la personne ne vous écoute pas vraiment? Puis, plus tard dans la conversation, l'autre personne dit des choses qui montrent clairement qu'elle ne vous pas à écouter. Oui, ça, c'est le problème spirituel décrit ici. Il est comme nous avons pas, notre attention est pas vraiment sur le sujet. Passons maintenant au verset 13 et voyons comment le lait est défini plus précisément au verset 13. Au verset 13 maintenant. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Car il est un enfant. Si nous nous concentrons uniquement sur ces principes élémentaires, nous sommes comme un bébé spirituel. Mais remarquez aussi que cette même personne n'a pas d'expérience dans la parole. D'expérience. En anglais, cela est traduit par « ils ne sont pas capables ». Ils n'ont pas la capacité. Et au verset 13 et 14, Paul fait un contraste entre un enfant et un homme fait. Certaines versions disent un bébé et un adulte, ce qui est mûr et ce qui ne l'est pas. Le fait de ne pas avoir l'expérience, les capacités ou les compétences, qu'il s'agit d'un emploi, signifie que vous êtes nouveau et que vous manquez de formation. Nos compétences ne sont pas développées. Ça, c'est le sens ici. Regardez le contraste au verset 14. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. La viande ou la nourriture spirituelle, nourriture solide, est pour les personnes qui sont mûres. Elles sont mûres parce qu'elles ont dépensé leur énergie à la recherche du discernement. Il peut discerner les choses. Encore une fois, la version anglaise G.B. Phillips rend cela ainsi. La nourriture solide est réservée à l'adulte, c'est-à-dire à l'homme qui a développé par l'expérience son pouvoir de discrimination entre ce qui est bon et ce qui est mauvais pour lui. Parfois, lorsqu'on pense au lait spirituel par rapport à la nourriture solide, on pourrait croire qu'il s'agit de la simple connaissance des doctrines de base par rapport à des connaissances bibliques plus approfondies. Mais en réalité, ce que nous voyons ici au verset 14, c'est que le lait est l'ABC. C'est l'ABC, c'est les lettres. C'est-à-dire l'alphabet. Et la nourriture solide représente les mots et les phrases qui sont construits à partir de cet alphabet. La nourriture solide, c'est pouvoir discerner les principes bibliques et comment les appliquer, tandis que le lait, c'est simplement comprendre des faits. Le lait, c'est juste les faits, mais la nourriture solide, c'est le pouvoir de discerner les principes bibliques et comment les appliquer. Nous voyons Jésus prêcher ces choses dans son sermon sur la montagne. Sur la montagne. Donc, regardez, vous pouvez garder votre place Hébreux 5 et 6 parce qu'on va passer plus de temps dans ce passage, mais s'il vous plaît, reportez à Matthieu 5 et verset 21. Parce qu'on peut voir même l'exemple de Jésus quand il prêche la nourriture solide et pas juste les ABC. Matthieu 5 et verset 21, et il y a plusieurs exemples, mais ça c'est juste un exemple sur un des 10 commandements. Il dit dans Matthieu 5, et verset 21, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. » Mais moi, et je peux faire une pause ici, ça c'est un fait. Ça, c'est un fait. Ça, c'est les principes élémentaires. Ça, c'est un des 10 commandements. Ça, c'est l'ABC de la parole de Dieu. Voilà, verset 21. Mais regardez verset 22. Ça, c'est la nourriture solide. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement, que celui qui dira à son frère « Raca » mérite d'être puni par le Sanhédrin et que celui qui lui dit « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la guerre. Vous savez, le fait est que nous ne devrions pas tuer, mais le principe est que le meurtre peut être accompli de nombreuses façons qui n'exigent pas forcément de littéralement tuer quelqu'un. Nous pouvons être en colère. Nous savons, écoutez, nous avons eu une bonne sermonnette sur ce sujet de la part de M. Solozano. Nous pouvons être en colère et nous pouvons parler avec colère, par exemple. Et puis, au verset 23, nous voyons que ces sentiments peuvent même avoir un impact sur notre capacité à donner une offrande à Dieu. Au verset 23, ce n'est pas nécessaire de lire pour l'instant. Bien souvent, nous voulons tout simplement qu'on nous dise quoi penser ou que quelqu'un valide ce que nous croyons déjà. Ensuite, nous pouvons nous asseoir et nous sentir à l'aise et confortable dans notre confiance. Ça, c'est notre nature humaine. Oh non, non, on dit, je n'ai jamais commis de meurtre. Disons-nous, je ne ferai jamais quelque chose d'aussi terrible. Ce sermon n'est pas pour moi. Je sais que ce que je crois. Mais peut-être la colère, peut-être les autres façons, le discernement, peut-être nous n'avons pas encore pris le discernement de vraiment comprendre que peut-être nous sommes en train de commettre un péché, même un péché comme tuer quelqu'un. Considérons un autre exemple de Jésus-Christ dans Marc 10, verset 17. Marc 10, verset 17. Pardon, un autre exemple de ce que signifie être prêt pour la nourriture solide. Marc 10, verset 17. Il dit, « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demandera-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» C'est une question importante. Et nous pouvons voir l'échange au verset 18 à verset 20 et comment Jésus lui a dit de garder les commandements, c'est-à-dire l'ABC de la voie divine. Nous voyons le jeune homme répondre au Christ qu'elle avait fait toutes ces choses depuis sa jeunesse. Et donc, en réponse, Jésus dit au verset 21, « Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. » Puis, viens et suis-moi. Nous voyons ici un principe plus large sur la manière de comprendre le premier commandement, sur le fait de ne pas avoir d'autre Dieu devant la face du vrai Dieu. Ce jeune homme connaissait l'ABC, les éléments, les principes élémentaires. Mais il fallait maintenant le mettre en pratique. L'argent était-il plus important que Dieu? Bien sûr que non. Mais cet homme est-il prêt à manger de la nourriture solide? Non. le principe plus profond lui était trop difficile à suivre. Non, il ne peut pas donner tous ses biens. Donc, l'argent est plus grand pour lui que Dieu. Ça, c'est la nourriture solide. Ça, c'est ça, c'est vraiment les éléments pas élémentaires. Ça, c'est le discernement. Lorsque j'étudie la théologie à l'université, j'ai suivi dans un cours sur les épîtres de Paul, et l'instructeur a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il dit, et j'ai mis ça dans mes notes, « Remercions Dieu pour les zones grises. » Remercions Dieu pour les zones grises. Et je me souviens avoir pensé, pourquoi est-ce que je devrais remercier Dieu pour ça? Je me suis dit, je veux savoir ce que dit la Bible et je veux le mettre en pratique, sans ambiguïté. Ça, c'était mon attitude. Pourquoi les zones grises? Et puis, l'instructeur a dit, c'est dans les zones grises que Dieu apprend où est notre cœur. Dans les zones grises que Dieu apprend où est notre cœur. Et j'ai alors réalisé qu'en effet, j'avais besoin de savoir ce que dit la Bible pour pouvoir l'appliquer dans des domaines qui ne sont pas assez clairement définis. Et dans cet exemple, on peut voir que ce jeune homme, il croyait qu'il a gardé les 10 commandements, mais il a oublié vraiment quelque chose d'important. Il aveugle même à son problème. Il a mis l'argent devant Dieu. Et Jésus a vu ça. C'est pourquoi il a demandé à lui de vendre tout. Par exemple, si je manque, ça c'est un exemple moderne, si je manque l'assemblée de sabbat aujourd'hui et que demain, peut-être nous avons l'occasion de parler par téléphone, et sur le téléphone, je vous dis, « Oh, je suis désolé d'avoir manqué l'assemblée. Ma fête de bureau vendredi soir, c'est un peu prolongé, plus tard que prévu. Et j'ai fait la grasse matinée, donc j'ai raté mon train pour arriver à l'heure. » Qu'est-ce qui ne va pas dans cette déclaration? Il y a un problème dans cette déclaration. Où pouvez-vous aller dans la Bible pour identifier où se trouve le problème dans ce qui est dit ici? Quel est le problème? Et pourtant, dans cette déclaration, il y a en effet des principes bibliques qui ont été violés. Mais où? Est-ce qu'il y a quelque chose concernant un train dans la Bible? Est-ce qu'il y a quelque chose concernant une fête de travail, une fête du bureau vendredi soir? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques dans la Bible? Non. Mais il y a des principes. Il faut discerner. Est-ce que j'ai vraiment gardé le sabbat en prenant un train? Est-ce que j'ai vraiment garder le quatrième commandement saint quand j'étais allé dans un party, dans une fête, un vendredi soir? Il faut avoir un certain discernement. Ceci m'amène à mon deuxième point. Deuxième point dans ce sermon. Deuxième point, c'est en rester au lait spirituel peut conduire à des terribles résultats. Parce que ça, c'est le contexte d'Hébreux 6, verset 4. Revenons à Hébreux 6 maintenant, s'il vous plaît. Hébreux 6, verset 4, verset 1. Nous avons déjà lu chapitre 5 et verset 14, et maintenant, début du chapitre 6. Hébreux 6, verset 1, on va continuer avec le contexte dans ce deuxième point. OK, verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, etc. Verset 2. Donc, l'auteur nous dit alors d'aller au-delà des principes élémentaires et de tendre à la perfection. À la perfection, qui est parfait, il dit. Ou à la maturité. La Bible du Semeur dit « tendant vers ce qui correspond au stade adulte ». Au stade adulte. L'auteur fait ensuite la liste de 6 éléments fondamentaux que nous devrions maintenant avoir compris. J'ai eu quelques conversations avec des membres francophones concernant s'il y a 6 éléments ou 7, mais on peut voir pour l'instant ici 6, ce verset 1, 2. Le repentir, la foi en Dieu, le baptême, l'imposition des mains, l'espoir de salut par la résurrection et enfin les inéquitudes concernant le jugement éternel. Ça, c'est 6 éléments fondamentaux. Aller vers la maturité ne consiste pas à se procurer les commentaires bibliques, les plus détaillés, ou 10 traductions, 15 traductions différentes de la Bible. Il ne s'agit pas d'apprendre le grec ou l'hébreu. Il ne s'agit pas d'étudier dans une école biblique, non. Comme Paul l'a écrit dans 1 Corinthiens, même avec le don de prophétie et la compréhension de tous les mystères, cela n'aurait aucune importance sans l'amour. Et lorsque le livre des Hébreux a été écrit, le livre de l'Apocalypse n'avait même pas été écrit, et la compréhension de prophétie était donc beaucoup moins compliquée. Donc, passer à la maturité, c'est apprendre à discerner le bien du mal, comme il a mentionné dans verset 14. Car nous vivons dans un monde basé sur l'arbre de connaissance du bien et du mal. Il y a le bien dans le monde et il y a le mal dans le monde. Et la question, c'est que sommes-nous capables de discerner entre les deux dans tous les domaines de la vie de tous les jours. Et puis, verset 3, nous avons ce beau rappel, après les six doctrines fondamentaux, il dit, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Intéressant, avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu, c'est possible, mais si nous n'avons pas l'esprit comme ça, il ne s'agit pas seulement de notre volonté et de notre force. C'est l'Esprit de Dieu qui agit en nous. Et puis, nous en venons au verset 4 à 6, nous avons déjà lu ça dans l'introduction. Si nous n'avançons pas dans le discernement, mais restons plutôt perçus et durs d'oreille, alors voici notre destin en verset 4. Car il est impossible, il dit, que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances de siècles à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour le Père, le Fils de Dieu, et les exposent à l'ignominie. Puis au verset 7 à 8, l'écrivain utilise une analogie agricole pour illustrer son propos. Donc, regarde le verset 7 maintenant. Lorsqu'une terre a prouvé par le puits qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais, verset 8, si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. L'idée derrière cette analogie est que le chrétien peut produire des bons fruits, mais que ce même champ chrétien de bons produits s'est ensuite transformé en épines et en rance. Et puis au verset 9, quand pour être pas trop décourageant, on nous dit que tout va bien se passer, regardez verset 9, parce que ce sujet est lourd, et il y a une certaine solennité, il est très solennel dans un sens, parce que c'est un sujet assez important. Verset 9, il dit, quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Et verset 10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, en rendant encore des services aux saints. Voilà, ça c'est notre deuxième point. Et maintenant, comment pouvons-nous donc appliquer ces principes? Quelles sont les choses qu'on peut même pratiquer cette semaine? J'ai deux choses à partager aujourd'hui pour finir ce sermon. Et la première chose, c'est de demander à Dieu la compréhension et la sagesse spirituelle et pas seulement la connaissance biblique plus académique. Il faut étudier la Bible. Il faut passer même chaque jour dans la Bible, dans les proverbes, dans les paroles de Christ, dans la loi de Dieu, dans l'Ancien Testament, dans les prophéties de Jérémie, d'Isaïe. Il faut passer le temps dans la Bible, mais il faut demander à Dieu la sagesse et la compréhension spirituelle. Donc, reportez-vous à Jacques 1, verset 5. Jacques 1, verset 5, juste quelques pages après. On peut lire ce passage pour comprendre que même ça, c'est la chose que Jacques a dit à nous ici, Jacques 1, verset 5. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Nous qui avons été appelés à la vérité de Dieu, nous pouvons voir les erreurs historiques et théologiques de ce qui est devenu l'Église catholique, qui a ensuite engendré des milliers de dénominations protestantes. Nous pouvons en venir à penser que nous sommes assez intelligents ou éclairés, que nous avons une assez bonne compréhension des choses, mais en fait, notre appel est un don de Dieu. Dieu à ouvrir notre esprit pour comprendre certaines choses. Ce n'est pas notre sagesse. Il faut demander la sagesse. Il faut demander le discernement. Si nous confondons cet appel avec le sentiment erroné que nous avons une grande compréhension et que nous sommes des érudits bibliques et des spécialistes de l'histoire, nous risquons de nous retrouver un jour en dehors de l'Église de Dieu. Ça, c'est notre appel. Bien sûr, nous avons chacun des dons. Il y a des gens qui ont un certain don avec l'histoire, avec les langues, bien sûr, avec les langues grecques et hébreux. Ça, c'est bien, bien sûr. Il n'y a rien de mal. Même, nous avons besoin des gens qui peuvent expliquer les Écritures en profondeur. Ça, c'est bien. Et si vous pouvez même passer plus de temps, ça, c'est bon. Mais ne confonde pas ça avec la nourriture solide. Ça, ce n'est pas la nourriture solide. Regardez le Proverbe 18 et verset 2. Proverbe 18 et verset 2. Proverbe 18 et verset 2. Notre sujet maintenant, c'est cette partie, c'est la sagesse, la compréhension spirituelle. Le Proverbe 18 et verset 2, il dit, ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Nous pouvons aussi croire qu'en raison de notre vocation, nous avons des capacités spéciales pour nous entendre avec les autres. Nous avons effectivement une capacité spéciale à nous entendre avec les autres, mais uniquement grâce au don du Saint-Esprit de Dieu qui agit en nous. Nous devons demander à l'Esprit de Dieu de nous montrer comment nos anciennes façons de penser aux relations humaines et notre ancienne façon de réagir envers les personnes qui nous entourent doivent changer. Il faut changer. Lorsque nous sommes enfants, nous voyons les adultes et les autres personnes en général dans une certaine manière. Ça, c'est le fait. Quand nous étions jeunes, il est comme ça. Mais lorsque nous vieillissons, nous découvrons souvent qu'il nous faut changer notre façon de les voir. Nous devons réévaluer notre façon de penser à la lumière de notre statut d'adulte. De même, si nous appuyons sur nos idées d'il y a 10 ou 20 ans concernant relations humaines et ce qui est important ou ce qui ne l'est pas, alors nous ne grandissons pas. Quelle erreur avons-nous commise dans la communication avec nos amis et notre famille dont nous devons nous repentir? Peut-être étions-nous corrects dans nos connaissances publiques, mais incorrects dans notre compréhension de la dynamique humaine. Il est possible d'être correct dans une certaine façon, mais incorrect dans un autre, dans la manière que nous partageons nos idées. Ça, c'est la dynamique humaine. C'est pour ça qu'il faut avoir la sagesse de choisir un bon moment, de choisir les bons mots, de réagir dans une certaine façon. La deuxième chose que je voudrais partager aujourd'hui, c'est de demander le discernement. Nous avons parlé beaucoup de ce sujet, mais demander le discernement. Ou comme nous avons déjà lu dans Hébreux 5, verset 14, demander que nos sens soient exercés. Nos sens soient exercés. Donc, voyez-vous, s'il vous plaît, reportez à Philippiens 1 et verset 9. Philippiens 1 et verset 9 à 10. Philippiens 1 et verset 9 à 10. Il dit ici, Philippiens 1, versets 9 à 10, « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Pour le jour de Christ, pour la fin de temps, pour le retour de Christ. Le discernement. Continuez à poser des questions et à obtenir des conseils et à rechercher des informations et demander la direction de Dieu par la prière, l'étude et les jeûnes. Il est très important d'aller au-delà de l'ABC, au-delà de juste une certaine compréhension des 10 commandements, mais de vraiment d'avoir le discernement, la sagesse pour comprendre la situation envers vous. Ce que j'ai vu si souvent, c'est que nous grandissons lorsque nous sommes intégrés et faisons pleinement partie du corps de Christ. Et c'est lorsque nous participons moins et que nous nous isolons que nous régressons dans ces domaines spirituels. Les interactions humaines au sein du corps de Christ en particulier. Plus nous nous isolons, moins nous parlons avec les autres dans l'Église et plus que nous nous permettrons d'être facilement offensés. Il faut avoir des discussions, il faut avoir des conversations. Et à cet égard, j'aimerais discuter d'un phénomène qui se produit lorsque les gens deviennent plus isolés. Au lieu de communiquer de façon authentique avec autrui et perdent ainsi leur discernement. Le sujet est ce qu'on appelle l'échelle d'inférence ou l'échelle de déduction. Ça, c'est vraiment c'est un phénomène qui est bien décrit dans plusieurs livres. Et le phénomène s'appelle l'échelle d'inférence ou l'échelle de déduction. Et je vais donner un exemple dans juste quelques minutes. L'échelle de différence est un processus par lequel, dans une interaction avec autrui, nous déduisons quelque chose d'une situation, puis quelque chose d'autre à partir de cela, et ainsi de suite jusqu'à ce que nous ayons créé une image complète, mais peut-être complètement fausse de la situation en question dans notre esprit. Mais cela devient pour nous une réalité et nous agissons en conséquence de cette fausse perception de la réalité. Donc, je vais vous donner un exemple. Et ça vient quand nous n'exerçons pas notre discernement. Donc, un exemple. Nous pouvons dire dans notre tête, la semaine dernière, lorsque j'ai parlé avec mon amie, elle ne semblait pas intéressée par ce que je dise. Pourquoi? Intéressant. Il s'agit d'une déduction. Ce n'est pas un fait, c'est juste un sentiment basé sur une observation. Cela s'appelle une déduction. Et à partir de cette inférence, nous pouvons en créer une autre. Nous pourrons dire, je pense qu'elle a été gênée par ce que j'ai dit. Il s'agit d'une deuxième inférence basée sur la première inférence. C'est le deuxième échelon de l'échelle. Et à partir de cette inférence, nous pouvons créer une troisième inférence et penser, je parais qu'elle est en colère contre moi parce que je n'ai pas voulu l'aider avec le projet qu'elle a mentionné. Et ainsi, nous ajoutons des barreaux à l'échelle d'inférence. Et puis, nous pouvons nous dire, elle ne veut pas probablement plus être mon amie. Et finalement, nous conclurons en pensant, eh bien, si elle est comme ça, je ne serai pas son amie non plus. Et donc, à partir d'une seule observation, nous créons cette échelle d'inférence qui peut conduire à une conclusion qui pourrait être incorrecte. En fait, dans cet exemple que j'ai donné, on allait voir la personne et en lui disant, par exemple, j'ai remarqué que la dernière fois que nous avons parlé, tu étais distraite et tu ne sembles pas m'écouter. Est-ce que ça va? Donc, vous pouvez même prendre le temps d'aller vers la personne et juste demander pourquoi elle était comme ça. Vous serez sans doute positivement surpris lorsque l'autre personne reprendrait, par exemple, « Oh, je m'excuse, j'avais un terrible mal de tête. Et ce jour-là, je ne me sentais pas bien. » Voilà. Il n'y avait rien de personnel. Au lieu de faire de plus en plus de fausses déductions, il suffisait de parler simplement et ouvertement à l'autre personne, car autrement, nos déductions et nos conclusions concernant les motifs et les raisons des autres sont trop souvent incorrectes. Quelle différence ! L'échelle de déduction qui arrive à une conclusion complètement incorrecte au lieu d'avoir juste une conversation. Ça, c'est un certain discernement de dire que peut-être ça, c'est une fausse déduction, peut-être c'est une fausse inférence, peut-être sera mieux pour moi juste d'aller avoir une conversation avec cette personne. Je dois discerner son intention. Oui, mais peut-être avec une conversation avec cette personne. Et nous réagissons parfois trop facilement avec colère et en étant offensés car nous avons jugé trop vite les motivations d'autrui. Cela est souvent la cause de nombreuses offenses et démontre un manque d'amour et de discernement spirituel dans les relations humaines. En parlant gentiment et ouvertement et en posant des questions respectueuses à la personne, au lieu d'être offensé, à cause de notre échelle d'inférence, nous avons amélioré notre amitié et notre discernement parce que nous avons simplement parlé à la personne en la traitant avec respect plutôt qu'en la jugeant par ignorance. Donc, ça, c'est deux choses que nous pouvons pratiquer cette semaine. En conclusion, nous avons parlé aujourd'hui de ce qui est impossible. Il est en fait impossible à Dieu de transgresser sa loi. Pour nous, il est impossible, après que nous ayons goûté à l'amour de Dieu, ensuite rejeter ce mode de vie et que nous puissions encore entrer dans le royaume de Dieu. Pour éviter cela, nous devons aller au-delà de la simple connaissance biblique académique. Nous devons aller au-delà de l'ABC et du lait. Nous devons passer à la nourriture solide et au discernement dans nos décisions de vie de tous les jours, et en particulier dans les relations humaines. En conclusion, revenons, s'il vous plaît, à Hébreux 6, versets 11 à 12, qui conclut tout ce passage, parce que j'ai dit que un de nos buts aujourd'hui, c'est d'examiner le contexte de Hébreux 6 et verset 4, le péché est impardonnable. Donc revenons s'il vous plaît à Hébreux 6 et verset 11 à 12. Il dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Nous sommes dans un corps de croyants et nous avons des exemples à imiter. Restons connectés et proches les uns aux autres en demandant la compréhension et le discernement spirituel et en nous laissant conduire par l'Esprit de Dieu. Notre vie en dépend. Donc, merci et bon sabbat.